mais qui est l'expression de Benjamin Netanyahou après la libération des otages. Ça nous a semblé intéressant, parce que nous avons les moyens ici de traduire ce que dit le chef du gouvernement israélien, d'entendre une partie de cette interview sur la 14e chaîne de télévision israélienne.
טוב, אם מישהו לא שם לב, אז ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, נכנס לאולפן.
Alors voilà, alors là, c'est maintenant le présentateur qui dit, si quelqu'un n'a pas remarqué, il y a le premier ministre israélien qui rentre en studio. Donc il est sur la 14e chaîne. C'est une chaîne qui lui est très favorable. Merci, merci, dit-il. Il arrive en courant, c'est une véritable ovation du public. Bi, 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 bi. Alors, donc, le présentateur reprend la parole. Monsieur le Premier ministre, d'abord, merci d'être venu dans notre mission Les Patriotes. Bonne semaine. Je sais qu'ils ne pensent pas comme ça, qui pensent différemment de nous, et moi, je pense que je suis le porte-voix de beaucoup de gens qui pensent comme moi, donc je profite de cette occasion de vous dire, Monsieur le Premier ministre, merci. La 14e chaîne, avant même l'interview, lui dit merci et le public
est.
On a passé deux ans très difficiles, très compliqués. Toi, tu étais à la tête du gouvernement et tu prenais toutes les décisions. Et tu as pris des décisions, pas peu, beaucoup, contre ce que disaient les responsables de la sécurité. Quelle est ta conclusion? Qu'est-ce que dit Netanyahou? Comment vous décrivez cette période? Je conclue cette période de guerre avec une décision que je vais amener demain au gouvernement. Appeler cette guerre la guerre de renaissance. Voilà. Voilà comment moi je conclue. C'est la guerre de renaissance. Je vous rappelle où nous étions il y a deux ans à Simchat Torah. Même si le public ne connaît pas tous les détails, on était devant une menace existentielle. Et après deux ans, dans ce Simchat Torah, Israël, on dit qu'on est une puissance. Mais non, on est une puissance mondiale. On est sorti du gouffre. Et je l'ai dit au troisième jour de la guerre. J'ai dit, on va changer le visage du Proche-Orient, et c'est exactement ce qu'on a fait. Comment on a fait? Avec trois choses. Première chose, l'héroïsme de nos combattants, de nos officiers, qui sont des héros. Les blessés, on ne peut pas dire à quel point c'est des héros, les blessés, et le peuple qui a donné son soutien. Et c'est eux qui ont permis la création de cette puissance. Puis les bonnes décisions du gouvernement qui travaillait avec moi. Et la troisième chose, le rapport personnel et particulier avec le président Trump. Et il y a encore des choses à faire, mais les opportunités de changer les choses en cassant la dynamique, on a l'œil vigilant. Mais
on
tend vers la paix d'une main, mais de l'autre, on maintient nos armes pour défendre l'État d'Israël. C'est ça qui va garantir notre futur.
Avarta,
Tu as dit, on a changé le Proche-Orient.
C'est clair que le Proche-Orient a changé.
Mais vous avez rappelé qu'il y a des choses à faire encore. Est-ce que la guerre est finie? Puisqu'il y a encore des choses à faire à Gaza, en Iran, les outils. Est-ce que cette guerre est finie? Dans quelle situation on est en fait? La guerre à Gaza se terminera définitivement quand on aura les objectifs qu'on avait fixés. Le retour de tous nos otages. Mais et on est encore dessus aujourd'hui. Je l'ai dit. J'ai dit que le passage de Rafah sera fermé tant que n'aura pas tous nos otages. On va attendre, on espère que dans les heures qui viennent, il y aura d'autres otages morts qui seront de retour. Ça, c'est l'étape 1. Maintenant, il y a l'étape 2. Et il faut aussi démanteler le Hamas, démanteler et le désarmer. Ça, j'espère qu'on pourra le faire. Et à ce moment-là, la guerre sera terminée. Et concernant l'Iran, c'est fini l'histoire avec l'Iran? On va devoir de nouveau repartir. On a, les gens comprennent pas à quel point on a repoussé une menace de guerre, une menace de vie et de mort. Après que nous avons détruit le Hezbollah, éliminé Nasrallah, nous avons cassé l'axe du mal, et l'Iran a été obligé de se rendre. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Elle qui pensait que c'était positif d'éliminer l'État d'Israël, on leur a brisé l'axe. On les a empêchés de s'armer avec une arme nucléaire. Ils avaient déjà le matériel hein, pour faire une bombe, mais le matériel seul ne suffit pas. Et ils avançaient de manière secrète, et nous aussi, on avançait durant des mois. En quelques mois, l'État d'Israël était encore quelques mois et on était dans un danger mortel. Alors vous voyez là, il y a une sirène là, monsieur le Premier ministre. Je dis toujours que la fumée peut déclencher les sirènes aussi. Là, tu m'as posé une question. Alors, les Iraniens, nous avons repoussé de manière significative le danger dans leur capacité scientifique. Maintenant, on nous a dit on peut rien faire contre leur recherche. On a tué plus d'une dizaine de dirigeants qui étaient responsables du programme nucléaire. Donc on les a repoussés. Est-ce que c'est fini? Ça sera jamais fini. C'est comme avec un cancer, tu sors les Mais ça peut revenir. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, on a l'œil déterminé. Et le président Trump me l'a redit encore dans notre dernière conversation. Il est avec nous. On les regarde. On est prêt à faire ce qui est nécessaire. Voilà, donc je vous propose de faire une pause. C'est l'interview accordée par Benjamin Netanyahou devant la 14e chaîne de télévision israélienne. Je pense que c'est intéressant de voir comment il s'exprime, et donc on le retrouve dans quelques minutes. Voilà, on va retrouver donc l'interview qui a été accordée par Benjamin Netanyahou à la 14e chaîne de télévision israélienne. Je vous rappelle un peu le contexte, c'est après la guerre. On lui a demandé d'ailleurs, mais finalement la guerre est finie ou pas? Alors donc il vient de répondre à l'instant, j'ai traduit. Je voudrais aussi dire, pour le bien de l'information, que la 14e chaîne de télévision, c'est une chaîne qui est pro-Netanyahou. Les chaînes qui sont plus critiques, c'est par exemple la chaîne 12 ou la chaîne Cannes. Là, en fait, c'est comme quand il parle devant Fox News, il est devant son public, ce qui explique d'ailleurs les nombreux applaudissements. Donc après, chacun se fait son idée, mais il me semblait quand même, c'est le Premier ministre israélien, on est après la guerre, on va entendre ce qu'il dit. Et donc je vous propose d'écouter encore quelques minutes les propos de Benjamin Netanyahou sur la 14e chaîne de télévision israélienne, dans une émission d'ailleurs qui est une émission phare en Israël qui s'appelle Les Patriotes.
Benjamin.
Je ne suis pas responsable des choses que vous dites. C'est la première fois que vous donnez une interview depuis que c'est fini cette guerre. Alors, on va essayer de comprendre quelque chose. Revenons au début. Démarre la guerre. Quelle est la décision significative que tu as prise et qui a influencé tout de suite la guerre? J'ai rencontré tout l'état-major à la Kiria. Première décision, déclarer la guerre. Et il y avait une question. Combien on mobilise de gens? 100 000? J'ai dit non. C'est une guerre. Une guerre de ce que j'ai vu moi. J'avais déjà compris que c'était pas seulement une guerre contre le Hamas, c'est une guerre aussi contre l'Iran. Première décision, c'est pas 50 000, c'est pas 100 000. C'est 400 000 réservistes qu'on a mobilisés pour faire la guerre. Et après, décision. Moi, des fois, je me suis dit, c'est peut-être la décision la plus importante que tu as prise, toi, quand tu as eu la possibilité d'attaquer l'axe iranien et donc le Hezbollah. Il y a des gens qui étaient contre. Par exemple, ton ministre de la Défense était contre Gallant. Puis tu as parlé avec Biden. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, après coup? C'était une décision critique. J'ai pensé que rentrer dans une guerre sur deux fronts, quand l'ennemi est sur deux fronts et rassemble ses forces, je me suis dit, dans le sud, on tient. Mais non, c'est le contraire. Dans le nord, là où nous, dans le sud, on nous a fait ce massacre terrible. On va finir la guerre là-bas, là où on nous a massacrés, et on va essayer de tenir sur le nord. Mais après, une fois que tu as attaqué l'essentiel du pouvoir du Hamas dans le sud, il fallait se tourner vers le nord. Je pense qu'on était vraiment vraiment englué dans de la boue. Mais il faut le dire, moi je soutiens les plus hauts responsables de l'armée, mais je leur ai dit, dites-moi ce que vous pensez. J'ai aucun problème, je vous soutiens. Mais après c'est moi qui décide. La décision finale, et ça me revient, et où est le plus important dans l'effort à faire, dans l'effort. Et finalement, tu prends une décision. Et si tu prends, quand tu dois regarder, tu vraiment as plusieurs angles. Ce que te dit la sécurité, ce que te dit aussi d'autres considérations, c'est difficile de faire l'équilibre. Alors on a réussi sur ces deux fronts. Bennett, par exemple, a dit qu'il faut se battre contre le Hamas sans rentrer dans Gaza. Ashkenazi aussi l'a dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand j'ai vu qu'il fallait qu'on rentre de manière terrestre à Gaza, tu peux raser le gazon si tu veux, mais tu peux pas déraciner si tu rentres pas au sol à Gaza. Donc je pensais qu'il fallait du temps, que le temps nous permettra de créer une nouvelle, de mettre une armée sur pied qui soit renouvelée. C'est un conseil qui m'avait été donné par les services de renseignement et elle était juste. Mais c'est une situation que personne ne connaissait, avec des tunnels à 50 mètres sous terre, avec des gens qui avaient des tireurs d'élite dans des lieux urbains. On n'était pas confronté à une situation comme celle-là auparavant. Et finalement, on a une situation meilleure aujourd'hui grâce aux actions qu'on a prises. Allez, raconte-nous ce qui s'est passé vraiment à Rafiah. C'est quoi l'histoire? Mais l'histoire est simple. Biden était avec nous dans les premières semaines de la guerre. Il tenait bon face à la pression internationale, notamment des médias. L'opinion publique, même aux États-Unis et même en Europe, nous est tombé dessus. Et on avait des pressions. Et on a commencé à avoir des pressions même de Biden pour qu'on arrête la guerre. Mais nous, on avait encore plus de 100 otages. Alors, à ça, avec une pression, on pouvait s'en sortir qu'avec l'armée et une pression politique. Et donc, on a dit, on continue. C'était très dur de dire ça à Biden. Et Biden a menacé. Et il a dit, attention, je vais le faire. Je vais faire un embargo sur vos armes. Et tu seras tout seul. Et je lui ai dit, je le connais depuis longtemps, je lui ai dit, Joe, tu es président des États-Unis. Je respecte. Mais moi, je suis le président du seul pays juif au monde et je vais prendre les décisions que je dois prendre. Mais je peux te dire, c'est une discussion qui n'était pas facile. Quand Biden te dit, je vais t'arrêter tout l'armement. Et qui commence d'ailleurs à le faire.
Tony Blinken
est arrivé, c'était le secrétaire d'État. Il
après
cette décision pas facile avec Biden, il est arrivé en Israël. Et il m'a dit, tu sais que le président américain est sérieux. Je lui ai dit, oui, je sais qu'il est sérieux. Il va vous arrêter l'armement. Et il m'a dit, comment vous allez vous battre? Je lui ai dit, Tony, on se battra avec les ongles si c'est nécessaire. On prendra l'espace de Philadelphie, on mettra nos forces là-bas, on prendra le pouvoir là-bas. On n'a aucun autre choix, et c'est ça qu'on fera. Tu trouves au milieu de la guerre. Sur combien de fronts? Le président des États-Unis te dit qu'il va te faire un embargo sur les armes. Ici, durant toute la guerre, tu as une opposition de toutes les orientations qui sont tous contre toi, manifestations, insultes, menaces, haine. On voit ça tous les jours. C'est comme si tu vois, dans le désert, les Juifs ils veulent retourner en Égypte, et tout le monde se dispute, tout le monde. Et tu vois que ça revient. Folie complète. Et finalement, en plus de ça, on t'emmène une accusation devant le tribunal. Tu dois aller au tribunal. Comment tu fais? Je sais même pas comment demander. Comment tu fais? Depuis combien de temps t'es premier ministre? 18 ans? Depuis 18 ans. Avec tout ce qui est passé, mais tu peux quand même tenir face à ce défi. C'est au-delà de la nature. Je vais te dire deux choses.
Un.
Vraiment, c'est pas facile. Je vais pas te dire que c'est facile. Des fois, tu peux tout faire. Mais c'est pas facile.
Ta famille,
on menace ta femme. On dit des accusations sans fin.
Et
guerre extérieure, guerre intérieure. Et ce que je vous ai dit sur le pouvoir américain, etc. Mais je peux te dire pourquoi j'ai tenu bon. Pour deux raisons. D'abord parce que je savais que si moi je lâchais, je perdais la guerre, qu'on n'allait pas à Khan Younes, je savais que c'était fini l'État d'Israël. Je le savais. Qu'on est face à une menace massive et une menace d'extermination.
Sinwar
serait sorti des tunnels. Il serait devenu le Saladin moderne, il serait devenu un héros mondial. Et dans le monde arabe, si on laisse le Hezbollah avec ses forces, c'est pas seulement 150 000 roquettes contre nous, c'est des forces beaucoup, beaucoup plus fortes. La force Redouane avec, au plus fort de sa puissance, l'Iran, qui veut terminer son programme nucléaire, si on ne le détruit pas, on était face à une menace de disparaître. Je vous le dis. Et je me disais, je n'ai pas le droit de me rendre. Je n'ai pas le choix. C'est ça que j'ai appris de mon père. C'est ce que je tiens de ma famille. J'étais pas seul. Vraiment, j'étais pas seul. Parce que je savais que le peuple, la majorité du peuple est avec moi. Et donc le public applaudit. Je veux vous dire. En urgence, j'ai rencontré dans l'urgence nos forces sur le terrain, nos soldats, nos officiers. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Prends tout ça. Prends tous ces juifs qui sont là. Ce que tu veux. Toutes les manifs, tout. Ils m'ont dit, j'ai jamais entendu un soldat qui m'a dit autre chose. Qui m'a dit, c'est toi qui es là pour le peuple d'Israël. Ils m'ont dit, Bibi, ne lâche rien, continue, avance, fais la guerre, bats-toi. Ça m'a beaucoup renforcé.
Je vais vous montrer
ce qui s'est passé à la Knesset en 76. Vous voulez ? Regardez. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir le voir, je fais un signe à la technique. On ne va pas vouloir le voir. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de le voir. C'est un moment où on voit Menachem Begin, donc il lui passe en fait une vidéo. On voit Menachem Begin qui dit à Shimon Peres, Dieu sait qu'on a des discussions où on n'est vraiment pas d'accord. Et Menachem Begin, il dit, mais je veux quand même te dire, sur ce coup-là, sur ça, Kol HaKavod, bravo.